Bonjour, merci donc d'être venu pour cette présentation par le SRH de la campagne d'évaluation professionnelle 2022. Je suis Jérôme Cachard, l'adjoint au chef de service RH, et avec moi dans la salle également Gilles Reynaud, le chef de service, pour animer cette réunion et qui transmettra le micro aux collègues pour les questions. Donc rapidement, pour ce petit moment, quelque chose juste. On va un peu rappeler les fondamentaux de cet exercice, sachant, je le dis tout de suite, qu'il n'y a pas d'évolution réglementaire ou de changement majeur sur le dispositif par rapport à l'année dernière. Alors. Tout d'abord, un petit point sur l'encadrement juridique de ce dispositif. Donc, c'est l'évaluation professionnelle, c'est prévu par le Code général de la fonction publique, qui cadre cette évaluation individuelle de la valeur professionnelle, aussi bien pour les agents titulaires, autrement appelés fonctionnaires, que pour les non-titulaires, autrement appelés contractuels. Je préciserai un petit peu plus tard ce cadre. Sur justement les agents contractuels, c'est répété et conforté par le décret cadre de 86 qui régit l'ensemble des agents contractuels à l'ENPC, puisque l'ENPC est un établissement public d'État, donc l'ensemble des agents contractuels voient leurs conditions d'emploi régies par ce décret de 86 qui concerne spécifiquement les contractuels de l'État. Et enfin, on a un décret, là aussi, ensemble fonction publique d'État, qui précise un petit peu les choses. Donc on a mis quelques éléments, à savoir que chaque année, donc il y a un entretien professionnel entre l'agent et son supérieur hiérarchique, que cet entretien professionnel y donne lieu à un compte-rendu écrit, que c'est bien le supérieur hiérarchique direct, autrement pour parler simple, parce que c'est toujours une question parfois qui peut se poser, le N plus 1 qui encadre au quotidien, qui est tenu d'assurer cet entretien et la rédaction du compte-rendu. Et sur la forme, le fait que il convient de convenir, s'entendre au moins 8 jours à l'avance de la date de l'entretien individuel. Voilà un peu pour les fondamentaux qui sont posés par les textes. Alors sur l'ensemble, pour préciser un petit peu les choses, tout d'abord, rappeler que cet exercice de l'évaluation professionnelle, qu'on retrouve également d'ailleurs dans le secteur privé, il est obligatoire. C'est le fait de tenir cet entretien au moins une fois par an, c'est vraiment une obligation, parce que ça a des conséquences, notamment en termes de suivi de carrière, pour une promotion, une mobilité. En tout cas, le compte-rendu écrit doit être mis au dossier individuel de l'agent. Mais aussi parce que c'est un moment de dialogue. L'objectif, c'est pas seulement remplir une obligation et mettre ça dans un dossier administratif. L'idée également, qui est toujours dans le public comme dans le privé, sur ces entretiens professionnels annuels, c'est de prendre un petit temps de recul, que ce soit l'agent aussi bien que le manager, sur l'année écoulée, l'année à venir. En cours, on devrait dire, vu que c'est toujours N plus 1 qu'on gère l'année N, et puis faire un petit tour d'horizon du travail réalisé, des compétences, etc. On développera après les différents champs de cet entretien professionnel. Donc c'est vraiment, faut vraiment prendre ça comme un moment d'échange, un moment de recul. C'est aussi pour ça qu'il y a ce délai de prévenance d'au moins 8 jours, parce que ça permet à chacun de prendre un petit moment pour réfléchir aux événements marquants de l'année et aux différents sujets qui vont être abordés sur aussi bien l'organisation du travail, les modalités, les conditions d'exercice, les compétences mises en œuvre, les formations, etc. On verra ça après. Donc ça, si on veut faire ça sérieusement et puis que ce soit utile, ça veut donc dire que chacun, aussi bien l'agent que l'évaluateur, prend un petit moment de réflexion, un petit moment de recul. Donc voilà, l'occurrence donc pour cette année, la campagne d'entretien professionnel de ce printemps concerne l'année civile 2021, hein, donc les résultats obtenus, tout ce qui a été réalisé ou non, c'est pour l'année 2021 et les objectifs fixés sont ceux de l'année 2022, voilà, pour être très précis. Donc il faut essayer de se tenir un petit peu à ce cadre et de faire abstraction s'il y a eu des événements ou des faits majeurs en ce début d'année 2022, parce que dans ce cas-là, c'est censé donner lieu à échange et être porté sur le crêpe de l'année suivante, et pas celui de cette année. Donc l'objectif, c'est que nous ayons un retour de 100% des CREP des agents qui doivent être évalués. Ça concerne, ça me permet de le préciser, quasiment l'intégralité des fonctionnaires comme des contractuels, à partir du moment où... Alors le texte est assez ouvert, là, pour s'adapter aux diverses réalités, hein. Il faut avoir une présence significative. Voilà. Donc nous, on a considéré au SRH qu'un agent qui a été présent au moins, au minimum un trimestre sur l'année, c'était un peu le bon niveau d'étiage. Et puis, s'agissant plus spécifiquement des contractuels, il faut avoir un contrat qui est d'une durée d'au minimum 1 an. Donc, compte tenu des pratiques de l'école, ça veut donc dire que plus de 90% des contractuels sont concernés, puisque on a assez peu de contrats courts de moins d'un an. Voilà. Pour situer un petit peu. Alors, à l'occasion de la campagne d'évaluation, vous avez peut-être vu, si vous avez regardé la note qui a été communiquée par le secrétariat général. On l'avait déjà mis l'année dernière, mais on y revient. Ça peut être aussi l'occasion de balayer le contenu du poste, et notamment la fiche de poste. Donc s'il y a un souhait d'évolution de la fiche de poste, c'est le moment d'en parler. Ça peut être fait aussi bien à l'initiative de l'agent qu'à l'initiative de l'évaluateur. Sachant qu'il ne faut jamais oublier que la fiche de poste est un support, hein, c'est pas un contrat de travail bis ou l'alpha et l'oméga du quotidien de travail et des missions qui peuvent être confiées. Hein. Alors, pour situer un petit peu, bon, voilà, j'insiste, il n'y a rien de contractuel, hein, c'est uniquement un point d'appui qui vient préciser les missions et les activités. Bon, ça peut toujours évoluer, hein, de toute façon. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être le bon moment, la campagne d'évaluation, de s'en parler. Ne jamais oublier, quand on s'en parle, que on peut pas, par le biais de la fiche de poste, utiliser ça comme un cavalier pour changer complètement la nature du poste, que ce soit... le niveau fonctionnel, on est encadrant ou pas encadrant, chef d'équipe, directeur, enfin, etc. Le niveau d'emploi, hein, comme je pense que tout le monde le sait, dans la fonction publique, il y a 3 catégories A, B, C, et y compris les contractuels sont rattachés à ces catégories selon le niveau de diplôme et le niveau de responsabilité. Donc ça, voilà, on n'y touche pas comme ça par le biais d'une fiche de poste. Ou l'intitulé du poste, et puis l'essentiel du contenu, les missions principales, voilà. Hein, ça, voilà. Là, on parle que d'une actualisation. Si on est vraiment sur une refonte du poste, ça va pas se faire à l'occasion de la campagne d'évaluation professionnelle. C'est ce sur quoi je veux insister. Donc, que cela émane de l'agent ou de l'évaluateur. Quoi qu'il arrive, on en discute, et après, le principe, c'est que le N plus 1, donc, s'il y a une évolution, il envoie la fiche Word en mode correction au service des ressources humaines au moment où il envoie le crêpe de l'agent signé. Donc la fiche de poste, hein, je rappelle le contenu essentiel, intitulé du poste, le service avec les différents volets, comment est organisé le service, les missions, les enjeux et les projets éventuellement, et puis le poste lui-même, attachement hiérarchique, encadrement, relations, missions, activités, voilà tout ce qu'il y a, et bien sûr enfin le profil, les exigences en termes de compétences qui sont attendues. Donc voilà, tout ça peut évoluer à cette occasion. Je ne dévote pas plus. Donc là, j'entame vraiment ce qui fait le cœur de l'entretien professionnel. Cette présentation, elle suit en fait les différents cadres du modèle du compte-rendu, sachant que le modèle de compte-rendu d'entretien professionnel de l'école, il reprend 99% celui de notre ministère de tutelle, ministère de la Transition écologique, et qui lui-même est très proche de ce qui est fait dans le reste de la fonction publique, parce que tout simplement, les différents champs que l'on va voir à l'occasion des chapitres de la présentation ABCDEF, ce sont les champs de l'évaluation professionnelle telle qu'elle est prévue. Donc il n'y a pas de scoop, il n'y a pas de grande... Sur ce sujet-là, vraiment, il n'y a pas de spécificité de l'ENPC particulière. Je veux dire, voilà. Donc le premier cadre, c'est l'atteinte des objectifs et des actions conduites. On fait un point par rapport aux objectifs qui ont été fixés dans le compte-rendu d'entretien professionnel, le CREP, de l'année précédente. Alors il va de soi que si jamais on n'était pas là l'année avant ou qu'on n'avait pas eu une fixation d'objectifs, bon, ce cadre il va être sans objet, hein, bien évidemment. L'idée, c'est vraiment d'être dans une opération itérative d'une année sur l'autre et puis de faire un point sur les objectifs fondamentaux qui ont été fixés l'année précédente. Voilà. Alors bien évidemment, ça doit toujours être fait en prenant en compte le contexte et les évolutions, puisque quand on a atteint ses objectifs, voire on les a dépassés, c'est super, il n'y a pas grand chose à dire. Après, il y a mille et une raisons qui peuvent faire que les objectifs n'ont pas été atteints ou partiellement atteints. Et dans ce cas-là, ça doit faire l'objet d'un échange, et bien évidemment, ça doit être apprécié avec un maximum d'objectivité, parce que parfois on n'atteint pas ses objectifs individuels parce qu'il y a eu tel ou tel événement, telle ou telle contrainte, des urgences, des absences, je ne sais quoi, un outil qui devait être déployé qui n'a pas été déployé. Enfin, il y a mille et une raisons, donc voilà, là, ça doit là aussi faire l'objet d'un échange pour objectiver les raisons pour lesquelles un objectif n'a pas été atteint, et puis faire ça toujours quand même dans l'objectif d'améliorer les choses et puis d'identifier comment on pourrait corriger le tir sur l'année suivante, donc l'année en cours là, en l'occurrence. Donc deuxième cadre, c'est l'appréciation des compétences de l'agent. Donc là, c'est souvent l'occasion de faire un petit point un peu par un tableau synoptique sur les acquis de l'expérience et puis la façon dont les compétences elles ont été effectivement mises en œuvre dans la réalisation des travaux au cours de l'année. Donc c'est ça, et normalement c'est censé bien évidemment quand même être en parfaite adéquation avec ce qui est le poste occupé et la fiche de poste. Rien d'extraordinaire là-dessus. Le troisième cadre, et qui doit donner lieu aussi à un échange, même si là, bien évidemment, c'est l'évaluateur, le supérieur hiérarchique au quotidien qui fixe les objectifs. On en discute, mais c'est pas quelque chose qui fait l'objet de négociations, parce que bien évidemment, il y a des contraintes et des orientations qui découlent des objectifs du service et qui sont ensuite déclinés individuellement. Hein, c'est, J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais je tiens à le rappeler pour qu'il n'y ait pas, ça peut arriver parfois, des échanges biaisés là-dessus. Voilà, hein, c'est pas une discussion au marché pour négocier le prix du kilo de pommes. Hein. Donc, c'est quand même cadré selon une démarche qu'on appelle SMART depuis bien longtemps. Hein. Il n'y a pas de scoop, mais c'est un acronyme facile à retenir, même si le vocabulaire est anglais. Mais parce que il faut quand même que ces objectifs y répondent à un certain nombre de critères pour essayer, bien évidemment, de limiter tout excès, en particulier si c'est un peu trop ambitieux. Alors la démarche SMART, c'est que quand votre manager vous indique les objectifs qu'il entend vous fixer pour l'année 2022 et formaliser sur le compte rendu professionnel, l'idée, alors l'ES, c'est que ce soit simple et spécifique, éviter les considérations générales, parce que un objectif du style faire mieux que l'année dernière, en quoi, sur quoi, bon, voilà, hein, je veux dire, il faut quand même essayer que ce soit quelque chose qui puisse être clairement identifié par chacun. Mesurable, là aussi, pareil, je ne fais pas mon exemple précédent, c'est que il faut que ce soit un minimum concret, tangible, que ça puisse être évalué. Par contre, je mets quand même un bémol là-dessus. Mesurable, ça ne veut pas dire forcément mathématiquement mesurable. Ça peut être, je prends toujours un cas délicat, mais il y a parfois des personnes qui sont excellentes dans leur travail, mais par contre, au niveau relationnel ou comportement, c'est très compliqué. Un des objectifs, ça peut être essayer d'améliorer le relationnel avec ses collègues, avec la hiérarchie, avec les partenaires. Ça peut être uniquement sur une partie et pas l'autre, etc. Ça peut être un objectif quand un manager estime que bon, il y a des petites améliorations à faire au niveau du savoir-être, comme on dit. Donc voilà, je donne cet exemple pour bien expliquer que mesurable, c'est que ça puisse être apprécié, que ce soit pas déconnecté des compétences et puis des éléments pouvant être évalués, mais c'est pas uniquement voilà passer de 15 dossiers dans l'année à 17. Hein. Le A, c'est pour ambitieux et accessible. Ambitieux, généralement, bon, ça, ils le sont toujours. L'accessibilité, c'est plutôt le point où il faut être, là, qui doit généralement donner le lieu à le plus d'échanges sur les moyens accordés, les compétences dont on dispose, où on y viendra, les formations dont on a besoin, ou d'autres éléments, hein, pour atteindre les objectifs qui sont fixés au plan individuel, mais qui, bien évidemment, reflètent les objectifs de l'ensemble du service. Le R pour réalisable. Donc réalisable, c'est, autrement dit, atteignable, accessible. C'est un peu redondant, mais c'est vraiment insister sur le fait qu'il faut bien se mettre d'accord sur le fait que l'objectif soit réaliste, et ça, le manager doit y porter attention, et là encore, c'est sa responsabilité de prendre en compte toutes les conditions de travail et les conditions du service au moment T et prévisible pour l'année à venir. Hein. Révisable, parce que rien n'empêche, bien évidemment, hein, ça le principe demeure, que en fonction des aléas de l'année, j'y reviens toujours, les événements, les urgences, les absences, mobilité de quelqu'un, perte de compétences, besoin de former un collègue, etc. Il y a des choses qui sont priorisées, dépriorisées, donc là il faut bien être d'accord, c'est normal, c'est la vie au travail. Et enfin, temporel, ne pas oublier que l'évaluation professionnelle et les objectifs fixés pour l'année 2022, c'est toujours par année civile. Alors bien évidemment, qu'on soit sur la recherche où c'est plus évident, ou dans d'autres services, où ça parle peut-être moins dans l'immédiat et encore, on est tous amenés plus ou moins régulièrement à travailler sur des projets pluriannuels. Donc dans ce cas-là, ça peut être aussi un objectif de fixer, d'avancer sur une étape cruciale ou de fixer un moment majeur d'avancer dans un projet, même si c'est un projet sur 5 ans ou 10 ans. Donc là, ce qui compte, c'est que ce soit quand même traduit de manière opérationnelle, mais bien temporalisé dans ce qui peut être réalisé dans le cadre de l'année 2022. Donc voilà, en quelques mots, la démarche SMART, mais je prends un petit moment pour insister un peu dessus, parce que c'est souvent un des points d'échange entre managers et agents un peu délicat sur les objectifs. Voilà, ce point précis.
Merci. Juste une question sur la planche précédente. Tu as indiqué qu'il fallait que l'entretien... Encore avant, voilà, cela.
Oui,
ou peut-être encore celle avant, je ne sais plus. L'idée, c'était que ça correspondait aux objectifs du service, en quelque sorte. Est-ce que ça veut dire que pour que l'entretien professionnel de l'agent se déroule, il faut d'abord que le chef du service ait eu son entretien avec son N plus 1 ?
Non. Alors, où je me suis mal exprimé, où je ne me suis pas bien fait comprendre.
Peut-être mal compris.
C'était le premier mot qui m'interpelle. Il faut. Non, il faut pas. Il y a des tas d'endroits où, en fait, les campagnes d'évaluation, d'ailleurs, dans l'administration, la plupart du temps, bon, on essaie de corriger le tir, mais ce sera pas cette année, ce sera, on espère, l'année prochaine. La campagne d'évaluation, elle se déroule en février-mars. Or, il se trouve que dans l'état de milieu professionnel, en février-mars, il n'y a pas eu encore toute la déclinaison des objectifs annuels qui sont descendus au niveau des managers opérationnels. Ce qui veut donc dire que les managers, les cadres intermédiaires, les managers, ils se retrouvent à devoir faire la campagne d'évaluation et fixer des objectifs aux agents sur le compte rendu, alors que eux-mêmes n'ont pas... Ils ont une idée, hein, bien évidemment, mais ils n'ont pas eu de formaliser encore les objectifs du service pour l'année en cours. Donc il n'y a pas de lien, en fait. Il n'y a pas de lien. La bonne méthode, bien évidemment, mais c'est un monde idéal, sauf dans certains endroits, j'en ai quelques-uns en tête, où c'est vraiment mais très structuré, c'est, oui, en janvier-février, la direction fixe... les objectifs je parle de la direction de l'école, l'entreprise, l'administration, à chacune des grandes directions, et puis ça percole, et hop, en janvier-février, tout le monde a ses objectifs de service, même au niveau des managers opérationnels de premier niveau, et puis paf, arrive la campagne d'évaluation, février, mars, avril, et donc c'est bon. Mais ça, c'est l'idéal, c'est vrai. Mais voilà. Mais rien ne n'oblige à ce que ce soit en lien direct, en fait. Ce qui aussi permet de donner une latitude au manager pour bien adapter les objectifs et les individualiser. C'est-à-dire que c'est aussi le rôle du cadre encadrant que de porter les objectifs, les résultats d'un service, mais de faire avec l'humain et son équipe. Or là, on est bien dans un exercice individuel. C'est tout l'objet. Voilà. Pas de lien automatique.
Je voulais, au niveau recherche, je voulais juste m'assurer qu'on était sur le même cadre que les deux années précédentes,
oui.
C'est-à-dire les doctorants et doctorantes bénéficient actuellement, dans la plupart des écoles doctorales, d'un entretien de suivi de thèse. On est bien d'accord que ça fait office, il n'y a pas besoin de refaire un entretien, on est toujours dans cette logique-là.
Oui.
Ok.
Oui. Les contractuels de droit public qui... je l'ai fait juridique, mais c'est pour être clair. Hein. Ces contractuels de droit public un peu particuliers que sont les doctorants, en fait, ils sont exclus du dispositif. Hein, c'est même prévu par les textes. Parce que, justement, on a tout le dispositif éducatif, là par contre, c'est l'école de l'éducation.
Les étudiants, hein, ils sont étudiants.
Oui, oui, mais enfin, ils sont étudiants, mais ils sont aussi contractuels de droit public.
C'est ça.
Donc voilà, c'est les deux à la fois. Donc en effet, ils sont explicitement exclus puisque leur évaluation se fait, comme vous l'avez dit, par ce suivi-là. Donc,
d'accord.
Et ils ne sont pas dans la campagne, ils ne sont pas concernés.
D'accord, donc on n'a rien à vous envoyer là-dessus. Hein.
Rien du tout.
D'accord, merci.
Je reprends le déroulé sur donc le cadre D du CREP. Alors là, on entre dans le champ des perspectives d'évolution professionnelle. Alors, c'est peut-être un des items avec la formation qu'on verra après, bien évidemment, le plus vraiment individualisé et de manière évidente pour tout le monde. Donc, ça va être très variable d'un agent à l'autre, hein. Alors les différents points qui sont abordés dans ce cadre, c'est les perspectives d'évolution de carrière. Alors, là aussi, hein, ça peut être à l'initiative de l'agent ou pas. On peut vouloir en parler ou pas aussi. Enfin, il n'y a pas d'obligation là-dessus, mais c'est dans ce cadre-là que peuvent être retracés le souhait d'une évolution professionnelle, de passer un concours, ou alors d'envisager de changer de service au sein de l'école ou en quittant l'école en allant ailleurs, ou alors qu'on a une perspective pour des raisons personnelles de devoir quitter l'école pour bouger géographiquement, enfin, etc. Il y a mille et une raisons, donc ça peut être l'occasion, bien évidemment, d'abord de s'en parler, parce que j'insiste, hein, c'est l'idée derrière, hein, c'est quand même de prendre un moment pour se parler, hein, donc voilà, un moment d'échange. Après, bien évidemment, ça peut être traduit dans ce champ qui est prévu pour ça. Voilà. L'organisation du temps de travail aussi, et puis l'accompagnement. Par contre, j'insiste là-dessus parce que je crois que dans l'école, il y a eu des petits malentendus à un moment, ou alors il y a peut-être émis sur un ancien modèle de crêpe il y a quelques années. C'est l'organisation pour échanger sur les modalités de réalisation du travail. Mais par exemple, il y a une campagne de... Non, je fais des bêtises, pardon. Il y a une campagne de télétravail, un protocole de télétravail quand on devient télétravailleuse, télétravailleur. On ne refait pas l'exercice de l'entretien avant le protocole de télétravail, etc. Parce que ça, de toute façon, ça a déjà eu lieu, il y a eu la campagne, et on doit avoir un entretien entre agent et encadrant au moment où on demande le télétravail. Donc, je vais le dire de manière simple, c'est pas le moment de refaire l'exercice et de perdre du temps, c'est pas ça l'objectif. Hein, là. C'est juste vraiment de s'en parler par rapport au sujet global de l'évaluation professionnelle, c'est-à-dire la réalisation du travail, les objectifs, etc. C'est faut voir ça comme un élément de contexte. On ne refait pas la campagne de télétravail. J'aborde maintenant donc le cadre de la formation. Alors c'est que ce cadre, il est assez cadré, c'est le cas de le dire. Allez, je fais exprès, tant pis. Parce que c'est très important, là aussi, dans ce compte-rendu d'entretien, de formaliser. Parce que vous avez un écrit vraiment sur les formations qui ont été réalisées. Il y a deux parties, les formations qui ont été réalisées. Donc il faut que chacun, là aussi d'où l'utilité de préparer l'entretien professionnel, aussi bien l'agent que le manager reprenne bien toutes les formations qui ont été suivies au cours de l'année 2021. Même des petites formations d'une heure et demie, deux heures ou je ne sais quoi, enfin ça vaut le coup de les retracer, ça participe du parcours de compétences, du parcours de formation, et ça a juste pour effet, voilà, de le retracer à l'occasion du compte-rendu d'entretien professionnel. Donc, quel que soit le type de formation, que ce soit quand on prend son poste, parce que voilà, on veut faire de la formation continue, ou bien dans la suite de la prise de poste, ou bien parce qu'on a envie de développer ses compétences, ou qualifications, même les préparations au concours et aux examens, si on se lance dans cette aventure, ça mérite d'être mis. Et puis le manager peut mettre quelques mots pour conclure sur le bilan des actions de formation, à savoir ce qu'il pense que ça a été utile ou pas pour l'agent, pour le service, rien d'exceptionnel. Et puis les actions de formation, là, pour l'année 2022, le côté prospectif. Qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qu'on souhaiterait faire. Et là aussi, ça peut être à l'initiative des deux, aussi bien l'évalué que l'évaluateur par rapport au contexte, aux objectifs fixés, voilà. Et à ce propos, donc, on en profite pour vous souligner, comme chaque année, que donc le plan de formation, il est disponible sur l'intranet, hein, toujours dans la partie ressources humaines, hein, il est à votre disposition. Il a été présenté donc au comité technique du 24 mars, voilà. Et pour formaliser une demande de formation, surtout, parce que là aussi, je crois qu'il y a un moment, peut-être, ça s'est pas fait comme ça à l'école, et il y a pu avoir des malentendus, des loupés ou un manque de réactivité. Donc le mieux, c'est vraiment, pour être sûr que tout se passe bien, de suivre le circuit. Donc on en profite pour vous faire un côté SRH, là, un petit point là-dessus, à savoir que une fois que c'est fermement décidé, il faut formaliser la demande sur le formulaire, qui est aussi disponible donc sur l'intranet dans la partie RH formation, que dans l'idéal, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais enfin quand même, essayer de prévoir 2 mois avant le début de la formation, d'abord pour soi, hein, parce qu'il arrive régulièrement que le nombre d'inscrits à une formation soit limité, qu'on passe par des opérateurs publics d'ailleurs, hein, que ce soit le ministère ou privé, avec des organismes de formation extérieurs. Parfois, il y a des sessions qui se remplissent très vite selon la formation demandée. Donc c'est d'abord pour soi, hein, c'est pas pour le confort de gestion du service des ressources humaines. Bon, nous, ça nous aide dans le flux des demandes également, mais l'idée de bien anticiper la demande autant que possible, et puis que ce soit bien soumis au N plus 1 ou N plus 2, et si on fait tout ça bien, ça évite aussi de perdre du temps et que le SRH vous dise « Ah ben non, là, il manque la signature, c'est pas validé, etc. » Donc voilà, j'insiste pas plus, et tout ça soit envoyé sur la boîte aux lettres fonctionnelle du SRH qui est dédiée spécifiquement à la formation. Ça permet comme ça à nos collègues d'avoir immédiatement vos demandes sans que ce soit noyé dans le flux de tous les autres mails. Donc le dernier champ de l'évaluation professionnelle et de l'entretien, c'est aussi fait pour ça, c'est de savoir un petit peu se situer. Et donc voilà, l'appréciation générale, est-ce qu'on pense que voilà, on estime que les choses vont bien, les points forts, les points faibles de l'année écoulée, ou que ça va pas, ça peut arriver, c'est quand même rare, fort heureusement, mais c'est aussi le moment pour se dire quand il y a des points sur lesquels on n'est pas content, ou l'un ou l'autre. J'insiste là-dessus dans le cadre de l'échange, c'est-à-dire que le dialogue, il doit vraiment avoir lieu, même si, bien évidemment, j'insiste également là-dessus, c'est le N plus 1 qui rédige le CREP, c'est le N plus 1 qui a la main, c'est le N plus 1 qui a le libre choix de mettre tel profil quoi ou telle appréciation, et si en tant qu'évalué, on est en désaccord, il y a des cadres observations, commentaires de l'agent, et c'est là, si on doit en arriver là, que on met et on formalise par écrit les points de désaccord. Voilà. Mais un CREP, c'est pas une négociation, c'est bien une rédaction unilatérale du supérieur hiérarchique. Voilà. Mais l'objectif, c'est quand même que ça se passe en bonne intelligence et bien. Donc, ce serait quand même. Voilà, l'objectif, c'est un peu de se parler du travail, des conditions de travail, de l'avancée, de ce qu'on apprend, des compétences qu'on arrive à développer ou pas, parce qu'on estime qu'on est dans un poste où, bon, voilà, ça va pas ou ça va plus. Enfin, voilà, c'est la campagne d'évaluation, c'est ça aussi. C'est l'occasion de se parler travail. J'insiste également au sens mathématique du mot également, là, au cas particulier d'ailleurs. Enfin, le circuit de notification, donc le CREP, il est conservé dans le dossier individuel de l'agent. Donc j'en profite pour revenir sur ce que j'ai dit en introduction, à savoir que pourquoi on insiste sur les comptes rendus d'entretien d'évaluation professionnelle, parce que en cas de mobilité, en particulier au sein de l'école ou ailleurs, mais dans le secteur public, il arrive régulièrement que les recruteurs demandent les trois derniers comptes rendus d'évaluation professionnelle. Donc c'est toujours potentiellement gênant quand on dit « Ah ben non, ça n'a pas été fait, j'ai pas, bon ». Parce que le recruteur, il peut toujours se dire que peut-être que c'est parce que les crêpes n'étaient pas très bons que vous dites ça ou pas, enfin, etc. Donc, puisque c'est une obligation dans toute la fonction publique, hein, et tout le monde le sait, hein, maintenant, comme vous avez vu, hein, le décret date de 2010, maintenant, ça fait une bonne douzaine d'années au moins hein, que ça existe, donc c'est entré dans les mœurs, donc bon, voilà. Ça permet également aussi... plus côté fonctionnaire, moins côté contractuel, mais quand même, je vais y venir, d'avoir un positionnement officiel de l'évaluateur. Et pourquoi c'est important? C'est pour ça que je dis que ça concerne également, on ne peut pas mettre de côté les agents contractuels, parce que en cas de requalification de poste, de velléité, de promotion, une des premières choses qui va être demandée par l'équipe de direction, qui va être regardée par le service RH en premier regard et en première instruction, ça va être les comptes rendus d'évaluation professionnelle. Et c'est un vrai point d'appui, parce que ça permet également de mettre en valeur tout ce qu'on a vu, les compétences, la formation, etc. C'est pour ça que j'insiste sur ce point, parce que c'est pas le premier qui saute aux yeux. Ça permet quand même de fixer les choses et c'est un point d'appui, y compris pour l'agent. Alors bien évidemment, hein, on va pas se mentir. Surtout si on travaille bien, que ça se passe bien, qu'on est compétent dans son boulot et que donc, logiquement, on a des comptes rendus d'évaluation qui sont plutôt positifs, voire très positifs. Parce que si on n'a pas ça et qu'on fait rien du tout, on arrive dans l'arbitraire, dans le fait que bon voilà, peut y avoir un changement de chef, ça combien de fois on voit ça nous en RH, on m'avait dit ou j'avais un mail de l'ancien directeur qui m'avait dit qu'il me promettait ceci ou cela, ok très bien, et donc ça a été mis dans le compte rendu d'entretien, j'en ai pas. Le directeur a changé, la nouvelle pense pas forcément ça, il veut attendre de voir, je parle un peu de la vie réelle, il y a des cas bien concrets pour expliquer que vraiment c'est un moyen d'objectiver et de mettre dans le dossier de quelqu'un vraiment les appréciations et que ce soit un point d'appui pour mille et une choses derrière dans le cadre de la gestion RH de l'agent. Sur les signatures, c'est important parce que signer et dater, ça veut dire que l'entretien, il a bien eu lieu à telle date, et puis les dates ouvrent les délais éventuels de recours. Hein, j'y viendrai après. Donc voilà le circuit, petit schéma que vous retrouvez d'ailleurs à la fin des supports de crêpes donc qui sont en ligne sur l'intranet aussi. Donc les étapes elles sont les suivantes, voilà le circuit. Le manager il rédige le crêpe et il date et signe au début et remet à l'agent. Alors là-dessus c'est assez ouvert, je préfère le dire tout de suite. C'est-à-dire que il y a des N plus 1 qui vont faire ça avant l'entretien, vous le remettre pendant l'entretien. Il y en a d'autres qui vont préférer laisser l'échange oral, l'entretien se dérouler, et qui vont vous remettre le crêpe parce qu'ils vont peut-être amender certaines formules qu'ils avaient en tête ou autres dans les jours qui suivent. Donc voilà. Mais quoi qu'il arrive, le crêpe, s'il n'est pas remis le jour de l'entretien, il faut aller voir son manager et puis l'inviter à pas trop traîner, quoi, parce que il y a tout le déroulé ensuite. Et puis pour se redonner le temps du dialogue aussi, on peut s'en reparler. Voilà, c'est important. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, une fois que l'agent a reçu ce crêpe, il peut faire des observations. Voilà, ça c'est libre, comme je vous ai dit. Hein, c'est, le crêpe, il est à la main du N plus 1. Mais si vraiment il y a des points que l'agent estime gênants, ou avec lesquels il n'est pas d'accord, ou un objectif qui lui semble pas réaliste du tout, parce que pour X raisons, c'est le moment de le formaliser dans le cadre d'observation. Et là, il faut donc faire une première signature. Il y aura deux signatures de l'agent, une première étape, une première signature lors de cette deuxième étape, et puis ensuite à la dernière. Donc, une fois que c'est fait, le N plus 1, il transmet au N plus 2 ce crêpe, qui signe également, qui peut ajouter des observations, ou pas, ça, c'est au libre choix du N plus 2, c'est pas quelque chose d'hyper significatif, ça dépend des cultures, ça dépend des personnes, parce que le crêpe, il est à la main du N plus 1, le N plus 2, bon ben voilà. Et enfin, le N plus 2 rend ça au N plus 1, qui le remet à l'agent pour la deuxième signature de l'agent, ce qu'on appelle la signature définitive, entre guillemets, quoi. Voilà, qui à nouveau date et signe, ce qui clôt là le circuit du crêpe. Et par souci de... Là, on a mis explicitement, parce que pour limiter le flux et aussi pour limiter les scans et les envois par les N plus 1, l'usage fait quand même mieux que ce soit comme ça. Et c'est aussi ce que veulent les textes, l'esprit des textes, c'est que le N plus 1 rassemble les crêpes des différents agents qui sont sous sa responsabilité et qu'il a évalué, et ensuite il fait un envoi au service des ressources humaines sur la boîte aux lettres fonctionnelle générique rh@npc.fr. Voilà. En vérifiant, bien évidemment, qu'il y a bien les dates et les quatre signatures. Voilà, voilà le circuit. Oui ?
Bonjour. Une petite question pour arriver au point 4. Est-ce qu'il y a un délai maximum ? Parce que vous aviez dit tout à l'heure que ça devait être fini pour le 30 juin.
Oui.
À partir du 30 juin, on dispose de combien de mois pour récupérer son crêpe ?
Il n'y a pas de délai maximum ni minimum. Disons qu'il y a des délais assez souples parce que là-dessus, la réglementation n'a pas voulu trop verrouiller les choses parce que par souci de réalisme, c'est pas toujours le cas, mais là, en l'occurrence, on sait bien que d'un endroit à l'autre, ça peut être plus ou moins long. Donc après, normalement, les règles et les usages, c'est on est toujours dans l'idée des 8 jours ou des 15 jours. Ce sont partout, ce sont les délais qui sont indiqués en gestion. Voilà, donc 8 jours minimum pour prévenir de la date. C'est le manager qui dit à son agent, voilà, tu es dispo, tu n'es pas dispo. Bon, ça peut être fait par oral, il n'y a pas de problème. Mais après, un petit mail pour confirmer le truc, c'est quand même mieux. Mais bon, généralement, il n'y a jamais de débat là-dessus. Et puis ensuite, l'idée, je déroule le circuit, c'est toujours que, ben justement, quoi, enfin, on va pas faire traîner le plaisir, surtout pour la partie évaluation, ça remonte à l'année 2021. Hein. Donc voilà, l'idée, c'est à chaque fois 8 jours, 15 jours, ça laisse du délai. Et puis, c'est aussi dans l'idée que ça doit pas être quelque chose de conflictuel, même si parfois... bon bah les choses se passent pas super bien, c'est pas le paradis, ou on s'aime pas trop parce que on est au travail pour travailler ensemble, mais on n'est pas là pour s'aimer, hein, forcément. Mais si quand ça se passe bien, c'est mieux. Quand on s'apprécie, c'est super. Et puis, mais parfois, c'est pas toujours le cas. Donc l'idée aussi de ces délais pour l'évaluation, c'est que en cas de désaccord, un agent puisse rediscuter avec son N plus 1. Un agent puisse aller voir directement le N plus 2 en disant « Bon, là, je viens d'avoir mon crêpe, il y a telle phrase ou tel mot, waouh, c'est raide, machin, j'aimerais en discuter, etc. » Donc c'est pour ça qu'il y a l'idée à chaque fois d'une semaine à 15 jours entre les différentes étapes en bonne pratique. Voilà. Donc, ben, faut suivre, quoi. Faut suivre. C'est la responsabilité du N plus 1, du N plus 2 et de l'agent, puisque on est trois acteurs. Le quatrième, nous, le SRH, étant le récepteur final et le conseiller au besoin. Mais on peut, bien évidemment, apporter des conseils ou répondre à des questions bien après cette présentation et dans le cadre du déroulé de la campagne. Mais voilà. Donc, je réinsiste sur ce point. Hein, signer, c'est accuser de réception et mettre une date. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce que son évaluateur met, mais là, pour ça, vraiment, si vraiment il y a un constat de désaccord qui demeure, eh ben, on remplit les cadres observations qui sont prévus pour ça, et pour dire qu'on n'est pas d'accord. On peut aussi mettre des choses positives, d'ailleurs, dans les cadres observations, j'en profite pour le dire. Quand ça se passe bien et qu'il n'y a pas de sujet. Donc voilà, pour finir, donc je rappelle les deux modèles de crêpes que nous avons dans l'école. Modèle, je vais appeler standard pour les évaluer, quels qu'ils soient, agents non encadrants ou encadrants d'une part, et puis un modèle aménagé pour nos collègues qui sont spécifiquement sur des fonctions de chercheurs. Il y a aussi bon la note de service annuelle, le formulaire d'actualisation de fiche de poste au format Word, le guide du MTE, j'ai laissé, mais il y a peut-être pas, peut-être on le mettra parce qu'il est très MTE et pas forcément adapté à l'école. Donc voilà, il y a tout ça dans l'espace SG ressources humaines, évaluation annuelle. Voilà, comme l'année dernière, normalement c'est déjà en ligne d'ailleurs, si je ne m'abuse.
Une petite question, oui. Est-ce que l'entretien individuel sert de base pour les primes liées à l'évolution du RIFSEP ?
Alors, non, il ne sert pas de base pour les primes. C'est un exercice disjoint. Par contre, il doit être clairement en cohérence et ça, pareil, il n'y a pas de spécificité, c'est comme ça dans la France entière, et même dans le privé, je pense qu'il en est de même. Il va de soi, parce que c'est le bon sens, hein. Là c'est l'évidence même, que quand on lance au SRH la campagne annuelle de primes pour les agents titulaires, on insiste lourdement sur le fait qu'il faut que les managers soient cohérents avec eux-mêmes d'abord. Hein. C'est-à-dire que quand on fait un bon crêpe pour un agent, il est inimaginable qu'il puisse y avoir un taux de prime très faible et qui manifeste que ça ne va pas. Hein. Donc c'est vraiment là, pour la peine, un exercice de responsabilisation des managers, à savoir que les deux doivent être en cohérence. Mais c'est écrit comme ça dans les textes, c'est l'esprit. Nulle part il n'est écrit que ça doit être en stricte concordance. Là aussi, on n'est pas dans du mathématique. Hein. L'évaluation, le travail en soi, l'évaluation du travail en soi sont des sujets éminemment complexes. Si on avait trouvé des formules mathématiques pour objectiver le jugement du travail, je pense qu'on le saurait depuis très longtemps. On sait que tout ça est très délicat, qu'il y a mille et un facteurs qui jouent. Donc voilà, donc les textes sont restés dans cette idée. Ça doit être cohérent. Les deux, la prime de fin d'année et puis le niveau global d'appréciation de l'agent retranscrit sur le CREP. Eh bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, Gilles Reynaud et moi-même, nous vous remercions d'être venus et pour votre attention à cette petite présentation. Voilà, Il y aura la vidéo. Je ne sais pas si on vous verra, mais au moins on vous entendra. Nos collègues vont s'occuper de ça pour les collègues qui n'ont pas pu être présents cette année. Et puis, vous avez les docs en ligne et les gestionnaires, comme Gilles Reynaud et moi-même, au besoin, nous pouvons répondre ensuite à vos questions au fil de l'eau, comme toujours. Voilà.